Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. À la fin de la pièce, il faut imaginer Cyrano mourant dans les bras de sa cousine Roxane, qu'il a toujours aimée toute sa vie, mais en secret. Le héros de l'ombre est pourtant aussi celui du panache. Et c'est le dernier mot qu'il prononcera, regardant Roxane et imaginant défiler devant ses yeux ses vieux ennemis, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Et te voilà, toi, la sottise. Je sais bien, poursuit-il, qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats et je me bats. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Arrachez, il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, tendez l'oreille, le mot arrive.
Ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous.
C'est...
Mon panache.
Rocks. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Rocks.
Évidemment, la Roxane de Cyrano est bien différente de la Roxane que chante The Police. Bonjour Mathieu Aumessard.
Bonjour Adèle Vendrette.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci de m'avoir invité.
Mais c'est un plaisir de vous y retrouver. Vous étiez venu il n'y a pas si longtemps nous parler de votre livre sur la philosophie du théâtre, paru chez Vrin. Et aujourd'hui, c'est pour parler de cette pièce extraordinaire, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, que vous êtes là. Quand on parle du panache et de Roxane, ce sont deux des éléments essentiels à la pièce qui sont énoncés dès le début.
Oui, et qui ne vont pas l'un sans l'autre. Alors je vous remercie pour ce début hétéroclite, cette rencontre de références qui se trouve très parlante. Alors, le panache, c'est le dernier mot de Cyrano, le mot qu'on vient d'entendre dans la bouche de Depardieu dans la célèbre adaptation de Rapneau. Donc c'est le mot qui conclut la pièce. C'est le dernier mot, c'est celui dans lequel vient se condenser tout ce qui s'est passé auparavant. Alors le panache, c'est la valeur centrale pour Cyrano. C'est ce qui résume toutes ces valeurs, c'est une sorte d'absence de valeur. C'est quelque chose qui, en quelque sorte, flotte au-dessus de son héroïsme. Cyrano, c'est un héros. Alors le héros, c'est quoi? Le héros, c'est des exploits. Le héros, c'est du danger. Le héros, c'est des combats. Dans le cas de Cyrano, le héros, c'est vraiment ça. Mais dans le cas de Cyrano, le héros, c'est quelque chose en plus. C'est une espèce de petite distance, une espèce de petite... de petits pas de côté ou de choses qui se promènent au-dessus des exploits, qui flottent au-dessus des exploits. Et cela, Rostand l'avait très bien dit dans son discours de réception à l'Académie française, après le succès de Cyrano. Il avait pris le mot panache au sens propre, c'est-à-dire le panache, c'est ce bouquet de plumes que l'on posait sur un chapeau ou sur un casque. Et il disait très bien, hein, le panache n'est pas la grandeur, c'est quelque chose qui s'ajoute à la grandeur et qui flotte au-dessus d'elle, qui bouge au-dessus d'elle.
Précisons Edmond Rostand, l'auteur de la pièce Cyrano de Bergerac, dont la première a lieu le 28 décembre 1897 au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et Edmond Rostand, au moment où la pièce joue pour la première fois, doute du succès. Il n'est pas du tout sûr que cette pièce va marcher. Il est loin de douter qu'elle aura une telle postérité.
Ah oui, Rostand a projeté beaucoup de lui-même dans la pièce. Il s'est énormément investi et il était terrifié qu'elle ne fonctionne pas. Alors on connaît une des autres répliques de la pièce, une des autres répliques célèbres, c'est « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ?»
Et on apprend qu'en fait Molière a pompé vraiment cette phrase à Edmond Rostand, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Cyrano de Bergerac, non, il l'a pas pompé à Edmond Rostand, il l'a pompé à Cyrano de Bergerac, à l'époque, au XVIIe siècle.
Qui a vraiment existé.
Cyrano de Bergerac, donc au Cyrano de Bergerac historique, qui était un poète, qui était un dramaturge, qui était un bretteur, qui était un physicien, qui était un homme voilà très complet. C'est pour ça que Rostand en a fait le héros de sa pièce. Et donc Cyrano de Bergerac était notamment l'auteur de cette fameuse réplique. Et ça renvoie d'ailleurs à des thématiques de la pièce. Il se l'est fait voler par Molière, auquel, à la fin de la pièce de Rostand, il reconnaît du génie. Et on comprend pourquoi cette réplique était importante aussi pour Rostand, parce qu'effectivement, il ne croyait pas du tout au départ au succès de cette pièce. Il pensait que ça allait être un four invraisemblable. C'est une pièce qui lui avait été commandée par son ami, le comédien Coquelin l'aîné, qui était une célébrité de l'époque, qui était sociétaire de la Comédie Française. Qui avait quitté la Comédie Française avec Perte et Fracas et qui avait besoin d'une pièce au théâtre de la Porte Saint-Martin pour redorer son blason et se mettre en valeur. Et donc, il avait commandé Cyrano, ou une pièce en tout cas, à son ami Edmond Rostand. Et Edmond Rostand lui a produit de façon assez rocambolesque cette pièce monumentale, à la fois par le texte, par la taille, par la dimension épique, et voilà, qui est l'occasion de rêver de parler du thème du héros. Mais alors, justement, et on voit bien en quoi c'est lié au doute que Rostand pouvait avoir par rapport à sa propre pièce, c'est pas n'importe quel héros, Cyrano de Bergerac. C'est un héros qui est plein de failles, qui est plein de doutes, qui est plein de scepticisme. Alors c'était le Cyrano historique était un libertin, un penseur libertin, c'est-à-dire quelqu'un qui mettait en doute les autorités, la religion et toutes sortes de valeurs. Et c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans les thématiques de la pièce de Rostand. C'est ce doute, ces failles continuelles que Cyrano dissimule sous de grands exploits, sous un langage proliférant, sous ces énormes tirades magnifiques, sous les alexandrins. Et sous cet ensemble monumental, il y a des failles. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi que le thème du panache est intéressant, parce que c'est pour ça que le plus important à la fin pour Cyrano, c'est le panache. C'est-à-dire, une fois que toutes ces valeurs auront disparu, tous ces exploits seront passés, il restera le panache.
Ah, le panache. Voilà un mot dont on a un peu abusé et sur le sens duquel il faudrait bien qu'on s'entendît. Qu'est-ce que le panache ? Il ne suffit pas pour en avoir d'être un héros. Le panache n'est pas la grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute à la grandeur et qui bouge au-dessus d'elle. C'est quelque chose de voltigeant, d'excessif et d'un peu frisé. Si je ne craignais d'avoir l'air bien pressé de travailler au dictionnaire, je proposerais cette définition. Le panache, c'est l'esprit de la bravoure. Oui, c'est le courage dominant à ce point la situation qu'il en trouve le mot. Plaisanter en face du danger. C'est la suprême politesse, un délicat refus de se prendre au tragique. Le panache est alors la pudeur de l'héroïsme, comme un sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Certes, les héros sans panache sont plus désintéressés que les autres, car le panache, c'est souvent, dans un sacrifice qu'on fait, une consolation d'attitude qu'on se donne. Un peu frivole peut-être, un peu théâtral, sans doute. Le panache n'est qu'une grâce. Mais cette grâce est si difficile à conserver jusque devant la mort, cette grâce suppose tant de force, l'esprit qui voltige n'est-il pas la plus belle victoire sur la carcasse qui tremble, que tout de même, c'est une grâce que je nous souhaite. Vous n'entendrez que du beau aujourd'hui sur France Culture et les chemins de la philosophie. J'ai découvert en lisant ce texte, Mathieu Homesser, le discours de réception à l'Académie française du 4 juin 1903 d'Edmond Rostand, que celui-ci s'exprimait un peu comme Cyrano. C'est plutôt l'inverse, hein, c'est qu'il a mis beaucoup de lui dans le personnage de Cyrano de Bergerac. Mais quelle élégance de la formule et quelle précision et quelle poésie pour évoquer cette force du panache.
Oui, c'est sûr que quelque chose de l'âme de Cyrano est passé chez Rostand aussi bien. Oui, ce texte, il est à la fois magnifique et je crois qu'il est très profond sur justement cette étrange valeur du panache qui est la seule qui reste à la fin. C'est la seule qui va survivre à la mort, là où toutes les autres vont disparaître. Alors, ce qu'on peut ajouter sur ce texte, c'est qu'avec ça, Rostand, il avait quelque chose en tête d'assez un enjeu qui est assez important vis-à-vis du théâtre. C'est-à-dire l'enjeu pour lui, c'était aussi de dépasser l'alternative entre la comédie et la tragédie. Il dit le panache, c'est un délicat refus de se prendre au tragique. C'est-à-dire ce que raconte Cyrano, c'est quand même un ensemble d'événements assez tragiques, d'événements qui auraient eu tout à fait leur place dans une tragédie. Et pourtant, Cyrano est sous-titré « comédie héroïque ». Comédie héroïque, c'est un genre qui avait ses lettres noblesse au XVIIe siècle. Hein. Déjà, chez Corneille, chez Molière, on trouvait des comédies héroïques, c'est-à-dire des comédies qui mettaient en valeur non pas des personnages de basse extraction ou des personnages proprement ridicules, mais des personnages nobles avec des vertus, avec de l'héroïsme, mais qui les plaçaient dans des situations qui n'étaient pas tout à fait celles d'une grande tragédie. Et c'est vraiment ce qui se passe avec Cyrano. Et on peut noter aussi que ce que dit Cyr Rostand là, dans ce très beau texte, c'est l'importance des mots. Cyrano, c'est un héros du langage, un héros des mots. C'est-à-dire, les exploits, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est les mots qui viennent s'ajouter aux exploits, comme dans la fameuse ballade du duel, où, évidemment, se battre, c'est très bien, c'est très valeureux, on se met en danger, etc. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'accompagner le duel, à mesure qu'il se déroule, de son propre commentaire ou de ses propres dialogues, de ses propres didascalies. Comme quand Cyrano dit « je jette doucement mon feutre », etc. à peu près. Il commente, il produit son texte en même temps qu'il accomplit l'action. Et c'est ça le panache, c'est cette capacité d'avoir cette petite distance, et notamment cette distance du mot d'esprit, du mot qui vient ajouter des significations, qui vient ajouter un recul souverain par rapport aux exploits strictement héroïques. Et c'est aussi en ça que c'est une comédie héroïque ou un héroïsme comique. C'est le héros qui prend un peu de distance vis-à-vis de son propre héroïsme.
Et pourtant, Rostand définit le panache comme étant la pudeur de l'héroïsme. Celui qui est pudique ne parle pas trop, celui qui parle s'expose davantage.
Oui, sauf que pour Cyrano, on pourrait soutenir exactement l'inverse. C'est le fait de parler dissimule son véritable héroïsme. C'est-à-dire qu'il choisit soigneusement ce qu'il dit, notamment à Roxane. Il ne lui dit pas tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou quand il lui parle directement, ça n'est pas en son nom propre. Il se fait passer pour Christian. C'est-à-dire ce beau jeune homme dont Cyrano ne pourra jamais égaler la beauté. Et qu'il prend en quelque sorte comme comparse pour séduire Roxane croyant être amoureuse de Christian, alors que c'est Cyrano qui souffle son texte à Christian. Et là, on voit bien pourquoi il y a une pudeur de l'héroïsme, c'est-à-dire que Cyrano, il y a toute une série de choses qu'il ne peut pas mettre en avant, notamment sur le plan du désir. Il y a toute une partie de sa vie, une partie de ses préoccupations qui reste cachée, parce que c'est trop intime, parce que c'est trop angoissant pour lui, la peur des femmes, etc. C'est quelque chose qui est très présent dans cette pièce. C'est ce qui en fait une comédie héroïque. C'est-à-dire, il y a de l'héroïsme, mais pas seulement. Et il y a quelque chose qui oblige ce héros à rester pudique, à rester caché, à rester dans l'ombre. C'est pour ça que Cyrano n'est pas un héros véritablement au sens du héros mythologique ou du
même
héros
qui accumule. Même s'il sait se battre seul contre tous.
Il sait se
il
battre
seul. Il en fait des récits extraordinaires.
Il sait se battre seul contre tous. Par exemple, à la fin de l'acte 1, il se bat contre 100 hommes tout seul à la porte de Nel. Mais la véritable motivation de ce combat reste cachée. Il se bat contre ces 100 hommes parce qu'il a, aux divines surprises, eu un rendez-vous de Roxane. Le rendez-vous est prévu, il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il est tellement galvanisé par cette idée qu'il va se battre contre ces 100 hommes, certes pour défendre un de ses amis poètes, mais la véritable raison est ailleurs. Et donc la véritable raison, il la cache. Tout ce qui est sur le plan de l'amour, il le cache, il reste profondément pudique. Ce qui fait qu'on peut dire que toute cette débauche de langage ou cette débauche d'exploit est en fait faite pour cacher quelque chose, plutôt que pour montrer son héroïsme.
Et cette chose ne se révélera qu'à la toute fin. On a commencé avec le dernier mot de la pièce, on va revenir un tout petit peu en avant, mais pas tant que ça, c'est vraiment la dernière scène de Cyrano où l'on apprend, où Roxane apprend la vérité des sentiments de Cyrano. Elle apprend 15 ans après le début de l'intrigue que Cyrano était fou d'elle toute sa vie et que les lettres d'amour que Christian lui a envoyées étaient rédigées par Cyrano. Donc Roxane va pleurer un double deuil, parce qu'elle sait bien que Cyrano est mourant et Christian est mort 15 ans auparavant sur le champ de bataille. Et dans cette tirade de Cyrano, il se présente lui-même et il faut attendre toute la fin de la pièce pour voir comment, quel mot il choisit pour dresser son propre portrait. Écoutez.
C'est là, je vous le dis, que l'on va m'envoyer faire mon paradis. Plus d'une âme que j'aime y doit être exilée, et je retrouverai Socrate et Galilée.
Non, non, c'est trop stupide, à la fin, c'est trop injuste. Un tel poète, un cœur si grand, si haut, mourir ainsi, mourir.
Voilà le bray qui grogne.
Oh, cher ami, ça sent.
des cadets de Gascogne. La masse élémentaire. Voilà le hic.
Sa science dans son délire.
Copernic a dit. Mais aussi, que diable allait-il faire? Mais que diable allait-il faire en cette galère? Philosophe, physicien, rimeur, barreur, musicien et voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien, si j'y... Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais. Pardon, je ne peux le faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce beau Christian. Je veux seulement que lorsque... le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres, et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil.
Cette fois-ci, c'est Albert Miller, non Gérard Depardieu, qui interprète Cyrano dans le film de Jean Fauché, puisque la pièce d'Edmond Rostand a donné lieu à de nombreuses adaptations. Le film de Rapneau de 90 reste sans doute indépassable, et c'est Gérard Depardieu qui interprète Cyrano, mais nous allons vous faire entendre d'autres versions également. Et dans celle-ci, cette Cyrano de Bergerac, qui a quelques instants de la mort, trouve encore la force, la verve et le panache de faire des jolies phrases, et notamment la présentation qu'il donne de lui-même, Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. C'est une bonne façon de résumer son héroïsme, Mathieu Messard.
Oui, il y a ce goût de la formule définitive, bon, qui de fait ne l'est jamais vraiment jusqu'au panache de la fin. Alors il y a quelque chose qui est très beau dans cette réplique, c'est le fait qu'il compose son propre épitaphe. Ce qui est un des grands thèmes de la pièce, Cyrano veut être l'auteur de sa propre vie. Pas un simple pantin, pas un simple personnage, pas un héros au sens d'un personnage, mais vraiment l'auteur, au sens de l'auteur de la pièce. C'est ce qui en fait un personnage fascinant, c'est un des personnages de théâtre qui veut être l'auteur lui-même de la pièce. Ce qu'il était, le Cyrano historique était auteur, mais le Cyrano de Rostand est l'auteur de la pièce. Il est l'auteur de ce que dit Christian, il est l'auteur de ses propres actions, comme ce que j'ai dit tout à l'heure de la balade du duel. Et ici, il compose son propre épitaphe. Et il se décrit comme un personnage total. Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien, un personnage qui est tout. Et il conclut en disant en même temps rien, ce qui est une magnifique définition de sa propre personne, à la fois parce que c'est un personnage fictif qui n'existe pas, une sorte de projection de l'esprit de Rostand, projection imaginaire ou pour les spectateurs, une projection fantasmatique. C'est aussi une très belle définition du comédien, être tout et puis n'être rien, pouvoir être tout et en fait n'être rien de tout ça. Et ce qui est en même temps magnifique. Et puis, plus profondément, je crois que ça nous renvoie à ce qui est l'économie du personnage, la façon dont il est composé. Dans Cyrano, il y a tout un raisonnement économique sur la façon dont on construit un personnage en lui donnant toutes sortes de dimensions et en voyant comment ces dimensions peuvent coexister, s'entretenir entre elles, enfin s'encourager entre elles en quelque sorte, mais aussi entrer en conflit. Et Cyrano, il est plein de choses à la fois. Il cherche à tout concilier. Mais en même temps, il n'est rien parce qu'à la fin, l'essentiel, son amour pour Roxane, il n'arrive pas à le faire exister. Et c'est pour ça qu'il dit je veux être tout, j'ai voulu être tout, et en fait, je n'étais rien parce que l'essentiel, je n'ai pas réussi à le faire aboutir, je n'ai pas réussi à accomplir ce désir-là. Et je crois que c'est ça qui fait de cette comédie héroïque et en même temps quelque chose de tragique. Le dernier acte est quand même pas très très comique hein, quand on y arrive.
Mais le terme de comédie est surprenant, c'est vrai, parce que on ne qualifierait pas cette pièce de comique, même s'il y a des moments drôles.
Ça reste quand même une pièce où il y a de grands moments de comédie, notamment l'acte 2 chez Ragnaud, dans la pâtisserie, etc. C'est sûr que l'acte 5, l'avancée vers la mort, et déjà après la mort de Christian, là on va vers la deuxième mort, celle de Cyrano, a très peu d'éléments de comédie. Et pourtant, jusqu'à la fin, Cyrano produit des mots d'esprit. C'est ça qui reste quand même de l'ordre de la comédie héroïque, au sens où le Cid, par exemple, pouvait être pour Rostand aussi une comédie héroïque ou quelque chose qui s'en approchait, une tragicomédie en l'occurrence. Mais voilà, ce qui est très beau dans cette épitaphe, c'est la façon dont Cyrano résume toute l'économie de son propre personnage. « Je suis tout ». Toutes les dimensions possibles de l'humanité, peut-être philosophe bretteur, et puis je combats très bien, et puis je parle très bien, le corps, l'esprit, etc. Tout ça condensé en un seul personnage, et en même temps un ensemble qui à la fin part en poussière et n'est plus rien, et il ne reste que le panache.
C'est une réflexion sur le métier d'auteur également. S'il y a bien une chose que Cyrano est, cet auteur des lettres de Christian, de son amour, de ses tirades, de ses bons mots, et pourtant un auteur qui passe à côté de sa propre vie. Voilà, ça suscite une réflexion. Faut-il choisir entre vivre ou écrire? Faut-il choisir?
Alors, c'est sûr que là, il y a un choix très, très crucial. Et le drame de l'auteur, clairement, pour Cyrano, c'est de vivre à travers quelqu'un d'autre. De prêter ses mots, c'est-à-dire ce qu'il a de plus intime et de plus profond, à quelqu'un d'autre qui les mettra mieux en valeur que lui. C'est pour ça que le fait que Molière lui ait voler une réplique est si douloureux. Et à la fin, il dira « Molière a du génie et Christian était beau ». Ce sont les deux personnes qui lui ont volé le meilleur de lui-même. C'est-à-dire ses répliques de théâtre et puis ses répliques de séduction vis-à-vis de Roxane. Et ça, c'est un thème qui court à travers toute la pièce et qui était clairement important pour Rostand lui-même. C'est-à-dire que Rostand, qui avait des doutes sur sa propre carrière d'auteur dramatique, qui écrit une pièce sur commande pour Constant Coquelin, vit à travers ce personnage, se projette en lui, et en même temps est dépossédé par Cyrano, qui lui-même est dépossédé par Christian. Alors récemment, il y a eu une très belle adaptation de tous ces thèmes-là par Alexis Michalik dans une pièce qui s'appelle Edmond, qui a eu beaucoup de succès, et où il met très bien en scène...
Au théâtre du Palais Royal.
Au théâtre du Palais Royal, où il met très bien en scène cette dualité et ce jeu de tiroir, en quelque sorte, ou de poupée russe, je ne saurais pas dire, où on voit Edmond qui écrit des lettres pour une habilleuse, mais qui, en fait, ces lettres sont prises par un autre qui en fait usage pour écrire Cyrano, qui lui-même les prête ses mots à Christian, etc. Donc on voit bien que ce que montrait bien cette adaptation, c'est que Rostand avait lui-même projeté ses angoisses d'auteur et d'auteur dépossédé dans le personnage de Cyrano, qui est lui-même dépossédé de son propre texte par Christian, ce que montre très bien par exemple la scène du balcon où il souffle à Christian le texte par lequel il va séduire Roxane. Et il y a un moment tout à fait fascinant dans cette scène, c'est le moment où Roxane trouve que Christian ne parle pas assez vite. Il lui dit des choses très séduisantes, mais pas assez vite. Et là, Cyrano le sent et se met à parler lui-même, à mi-voix, en essayant d'imiter la voix de Christian. Donc il parle en direct. Il se débarrasse de son comédien et il parle en direct. Et là, Roxane est...
Mais dans l'ombre, enfin de nuit.
Voilà, sans se montrer.
Roxane est sur son balcon, elle ne les voit pas, lui est dans l'ombre.
Voilà,
et
sous un manteau.
Parole.
Et sous un manteau. Comme ça, Roxane, par convention, elle continue à croire que c'est bien de Christian qu'il s'agit, mais en fait, c'est Cyrano qui parle. Et donc là, le texte arrive plus vite. Parce que c'est l'auteur directement qui le dit. Il n'a plus besoin du comédien, il évacue le comédien. Et c'est peut-être aussi un des enjeux de la toute première, du tout premier moment de la pièce. Le premier geste de Cyrano dans la pièce, c'est il évacue le comédien Montfleury. Le
tragédien Montfleury. Parce que la scène s'ouvre avec une représentation théâtrale.
Voilà, au début, s'il y a du théâtre dans le théâtre, on est à l'hôtel de Bourgogne, et il y a la représentation d'une pièce dans laquelle joue le tragédien Montfleury, et Cyrano l'a interdit de représentation parce qu'il trouvait qu'il jouait mal, et il l'évacue du théâtre. Et là aussi, il y a un geste d'auteur, c'est-à-dire il est l'auteur de la pièce, il est l'auteur de ce qui se passe sur le théâtre, il décide de ce qui doit se passer sur le théâtre, et au besoin, il évacue les comédiens trop mauvais, comme Christian dans la scène du balcon, en quelque sorte.
Cyrano a un problème, et peut-être que d'ailleurs son recours à la langue, à l'écriture et au bon verbe est une manière de camoufler ce problème qu'il n'arrive pas à camoufler, c'est la protubérance de son nez. Et on l'apprend très vite dans la pièce, dès la scène 4 de l'acte 1. Il a interrompu cette pièce de théâtre car il trouve les comédiens trop mauvais. Certaines personnes ne supportent pas qu'il interrompe cette pièce. On le provoque en duel et le vicomte essaye de l'attaquer à sa façon et lui dit bon bah qu'il a un problème, c'est que son nez est un peu grand, ce à quoi Cyrano va rétorquer que quand même, il aurait pu faire un peu mieux. Je paraphrase à dessein, voici l'extrait qui se trouve au début de la pièce cette fois-ci et qui est une scène absolument mémorable. Écoutez, c'est Jean Piat qui interprète Cyrano.
Vous avez un nez un nez très grand. Très.
C'est tout?
Mais...
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il devrait sur le champ que je me l'emputasse.
Amica.
Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fasse. Pédant. L'animal seul, monsieur Caristophe, à la belle époque, oh, Penefato, Camelos, dut avoir sur le front de chair sur ton dos. Cavalier, quoi, l'ami Secro est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumé tout entier. Excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard.
RD, et Yanné, nana, c'est quelque navet géant ou bien quelque melon.
Militaire, pointé contre cavalerie, pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyram en un sanglot. Nous voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie.
Il en rougit, le trait.
Voilà. Ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en dites jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous dit d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une quart. Je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.
Jean Piat dans le rôle de Cyrano de Bergerac à la Comédie Française en 1966 sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Voilà comment on se fait respecter même quand on a une protubérance physique au milieu du visage, Mathieu Aumessard. Eh bien, on parle bien, on se tourne en dérision et l'on montre que le physique vient après le goût de la langue. C'est aussi une pièce sur le goût de la langue, dans tous les sens du terme d'ailleurs. La langue qui va se nourrir, on y viendra, avec la gourmandise réelle des pâtisseries du pâtissier Ragnaud. La langue avec laquelle on aimerait embrasser l'être aimé et qui ne la touche jamais vraiment. Et la langue écrite, la langue parlée dont on se délecte à la fois quand on la prononce et quand on l'écoute, comme c'est le cas ici avec cette fameuse tirade du nez.
Oui, alors dans cette réplique, la fonction de la langue est très intéressante. On peut y voir vraiment une sorte de résumé du problème de la civilisation. C'est-à-dire que faire quand on est dans une situation d'agression, quand on est provoqué. Et ce que propose Cyrano ici, et c'est pour ça que cette réplique est devenue culte, comme on dit, c'est la réponse idéale. à ce genre de provocation.
On aimerait avoir une telle répartie, c'est vrai.
Voilà, mais en général, le problème, c'est qu'on a l'esprit d'escalier. C'est que ça nous vient beaucoup plus tard, trop tard, et jamais comme ça. Et là, Cyrano, et ça fait rêver, a effectivement une maîtrise du langage suffisante pour répondre à cette chose proliférante, extrêmement spirituelle, extrêmement élégante, et surtout pour faire ce qui est l'essentiel du trait d'esprit, du mot d'esprit, c'est le faire sur le moment, dans la situation. Parler, c'est répondre. C'est vraiment répondre. Répondre au sens de la responsabilité et répondre au sens immédiat de produire une réponse face à une situation qui s'impose à nous, en particulier lorsque c'est une situation de violence. Et là, c'est ce qui se passe. Alors, au point de départ de cette réplique, il y a effectivement le nez. Alors, le nez, c'est quelque chose qui, là, pour le coup, échappe à l'esprit de Cyrano, à tous ses moyens intellectuels. C'est une donnée de base dont il doit tenir compte, qui en fait aussi un personnage théâtral, parce que, voilà, ça l'inscrit dans la matérialité de la scène, dans la matérialité de son corps, et surtout, ça crée un enjeu dramatique constant, puisque c'est ça qui lance des scènes, cette scène-là, la première scène avec Christian, qui lui aussi va plus tard le provoquer sur son nez, et donc à chaque fois, Cyrano doit d'une façon ou d'une autre répondre à ces choses-là. Alors, évidemment, ça donne à ce langage, à cette maîtrise de la langue, une grande noblesse. C'est d'abord ce qui lui permet de ne pas se battre. Le langage ici devrait permettre de désamorcer la violence. Et c'est vraiment ce que mime le texte au début, enfin ce qu'il met en scène. Parce que le procédé de la réplique, c'est de varier le ton sur lequel le vicomte aurait pu se moquer de Cyrano. Et on peut noter que Cyrano commence par le ton agressif. Mmh. Agressif, moi monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Ensuite, le ton qu'il choisit, c'est amical. Mais il doit tromper dans votre tasse, etc. Pour ensuite arriver à un ton descriptif. Tout se passe comme s'il désamorçait la violence pour ensuite voyager à travers tous les tons possibles dans une espèce de promenade très plaisante à travers la langue. Et donc, vraiment, ce qui est mis en scène là, c'est la tentative pour désamorcer la violence en passant par le langage. Et ça, si on pense par exemple au test de Freud sur le mot d'esprit, c'est l'essence du mot d'esprit. Le mot d'esprit, c'est un moyen détourné, symbolique, pour exprimer de la violence, pour exprimer des tendances agressives. La moquerie. Alors bien sûr, c'est jamais agréable de subir une moquerie, mais quand elle est spirituelle, elle est quand même un moyen de ne pas être directement violent, de ne pas être directement agressif, de l'être sur un mode détourné, symbolique, donc relativement civilisé. Donc le langage vis-à-vis de la violence, c'est un principe, un instrument privilégié de civilisation. Ce qu'il faut remarquer aussi, malheureusement, c'est que cette débauche de langage là que Cyrano nous propose dans cette réplique énorme, cette débauche de langage ne fonctionnera pas, puisqu'après, il sera quand même conduit à se battre. Et c'est après, contre ce même vicomte de Valdevert, qu'il va se battre en duel en produisant la ballade du duel. Donc ça, c'est une faille, c'est un échec, ça ne fonctionnera pas. Deuxième chose qu'on peut se dire vis-à-vis de cette réplique, c'est que c'est quand même, si c'est la réponse de la civilisation à la violence ou à la provocation, c'est que c'est quand même une réponse extrêmement dépensière en énergie, en effort. C'est-à-dire, Cyrano, ça semble facile pour lui de dire tout ça, mais quand même, quelle énergie doit-il déployer pour répondre à la pauvre provocation du vicomte qui lui dit simplement « vous avez un nez très grand ». Donc celui qui a la charge de la civilisation a beaucoup plus de travail à faire que celui qui est là pour déstabiliser la situation. Et ça, c'est une leçon beaucoup plus amère de ce passage, je trouve, qui n'est pas juste un passage héroïque ou flamboyant, etc. Il y a des choses plus angoissantes, je trouve, qui...
C'est-à-dire, c'est désespérant quand on se tient du côté de la civilisation, de voir
les efforts
qu'on a déployés pour
compenser une pauvre provocation. Vraiment, c'est ce que je lis dans cette réplique. Et puis, la dernière chose qui peut donner un deuxième niveau de lecture vis-à-vis de cette réplique, toujours sur le thème de l'auteur et du texte écrit, c'est que c'est une réplique écrite. Et que justement, comme on le disait tout à l'heure, personne dans la vie réelle ne pourrait produire une telle réponse. Bon, pas comme ça, c'est impossible. Donc Cyrano est aussi un personnage fantasmatique, il est tout et puis il est rien, c'est-à-dire que c'est un personnage qui n'existe pas. Et ça, vis-à-vis de la fonction qui est ici attribuée au langage, à l'alexandrin, à ce langage poétique, c'est quelque chose qui se prête à plusieurs niveaux de lecture. Le propre d'un mot d'esprit, c'est qu'il permet effectivement de trouver des réparties très brillantes qui répondent aux situations, mais un mot d'esprit en général est incisif, court. Il peut exister, mais un mot d'esprit de cette taille-là, de cette ampleur-là, c'est quand même difficile à imaginer dans, dans la réalité.
Et peut-être que le plaisir du spectateur vient précisément du fait qu'il assiste à quelque chose qui ne peut se passer que sur scène, qui n'est que le résultat d'un texte appris par cœur et récité, quand on assiste à la représentation ou qu'on lise le texte. Mais peut-être y a-t-il plus encore dans le nez, si j'ose dire, Mathieu Messer, d'un point de vue non pas langagier, ou la façon qu'a Cyrano de se défendre, qui est d'ailleurs une façon de laisser son nez au centre, car dans cette tirade, il ne parle que de son nez, il veut bien qu'on ne l'oublie pas. C'est à la fois, il est vexé, en même temps, ça l'arrange bien, parce qu'il vient au centre de la scène. Et il le met lui-même en scène en adoptant tous les personnages, tous les tons différents qui pourraient contempler son propre nez. Il y a aussi une dimension proprement grotesque, physique. C'est-à-dire qu'on entre ici dans une forme de burlesque, et la rencontre entre le burlesque corporel qu'induit le nez et le sublime de la parole, c'est exactement la définition que Victor Hugo donne du héros. C'est la rencontre entre le burlesque ou le grotesque et le sublime, ce qui accroît la dimension héroïque de Cyrano.
Bien sûr, et la parenté du sublime et du grotesque est un thème très ancien, et c'est ce qui vient constamment rehausser l'héroïsme de Cyrano. C'est le fait qu'il est accroché à ce nez. Il est accroché à ce nez qui n'est pas seulement un trait physique difforme, mais c'est quelque chose qui a une portée symbolique, une valeur symbolique à laquelle il ne peut pas échapper. Cyrano, c'est un personnage symbolique. Au fond, on pourrait imaginer que Cyrano s'en fiche complètement de son nez. Après tout, c'est quelqu'un de très distancié pour tellement de choses. Pourquoi accorde-t-il autant d'importance à ce nez? Et pourtant, ça symbolise quelque chose pour lui. Ça symbolise, c'est ce qui l'inscrit physiquement dans des situations symboliquement de déséquilibre, de conflit, et auxquelles il doit répondre en permanence. Ça le suit partout. Ça le précède d'un quart d'heure dans tous les lieux où il arrive, comme il dit à un moment, là aussi de façon très spirituelle. Mais c'est quelque chose vis-à-vis duquel il n'arrive pas à prendre de distance. Alors, à quoi ça renvoie profondément ce nez pour lui? C'est ce que je disais un petit peu au début de l'émission, c'est à sa véritable faille, qui est celle du désir. Son nez, pourquoi le gêne-t-il autant? C'est ce qui l'empêche d'avoir une vie amoureuse, c'est ce qui l'empêche de réaliser son amour, notamment pour Roxane. Alors, on pourrait aussi faire des lectures psychanalytiques de ce nez, de ce qu'il symbolise.
Au-dessus de la ceinture.
Voilà, quelque chose qui, une interprétation qui remonterait littéralement bien au-dessus de la ceinture pour une fois. Mais il est évident qu'il y a quelque chose de cela dans le personnage de Cyrano et dans cette protubérance. Et il y a des allusions qui sont presque explicites dans la pièce à cette dimension phallique.
C'est plutôt tout à son honneur dans ce cas.
C'est-à-dire?
Si on compare un nez à un sexe masculin, eh bien la dimension érectile du nez au milieu de la visage est plutôt flatteuse.
Oui, sauf que là, il est vraiment placé au milieu de la figure et que c'est quand même pas l'endroit le plus pratique pour situer cet organe-là. Justement parce que ce qui gêne Cyrano, c'est que c'est une sorte de monstruosité qui montre son désir. Un désir qu'il voudrait cacher, un désir qu'il ne peut pas satisfaire. Cyrano dit souvent que, en tout cas à plusieurs reprises, qu'il y a une seule chose qui lui fait peur, c'est les moqueries des femmes. Et en particulier que Roxane lui rit au nez s'il lui avoue son amour. C'est-à-dire que ce personnage qui est tellement héroïque, qui n'a peur de rien, qui peut se battre contre 100 hommes, et qui, quand les moqueries se situent sur le plan de la virilité, de la comparaison virile, vis-à-vis des cadets de Gascogne, etc., ou de Christian, il n'a pas tellement de problèmes, finalement, à répondre de son nez et sur son nez. Mais, par contre, il est terrorisé à l'idée que cela vienne des femmes, que cela vienne de Roxane. Et là, il y a une vraie faille qui explique justement qu'il n'arrive pas à en être fier et qui explique qu'il n'arrive pas à se dépêtrer de ce trait physique qui l'encombre terriblement.
Il va alors trouver un stratagème en la compagnie de Christian. Christian aime Roxane, Roxane aime Christian. Cyrano aussi aime Roxane, mais personne ne le sait. Si bien que lorsque Cyrano va rencontrer Christian, il va se mettre en tête de l'aider à conquérir Roxane, sachant bien par là que ce sera un bon moyen pour lui de continuer à avoir Roxane, et il va proposer ses services à Christian, se présentant ainsi comme un héros de roman.
Je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, sont pour moi des bontés.
Et leur cœur n'en ont plus quand tu dois leur parler.
Je ne sais pas parler d'amour.
Moi, je saurais. Mais à quoi bon? Qui, me voyant, m'écouterait?
Oh, pour pouvoir exprimer les choses avec grâce.
Être un joli petit mousquetaire qui passe.
Roxane est précieuse, exigeante, coquette. Il me faudrait de l'éloquence.
Je t'en prête! Toi, du charme physique vainqueur, prête-moi. Et faisons à nous deux un héros de roman.
Quoi?
Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai?
Tu me proposes, puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur.
Monsieur Rano.
Christian, veux-tu?
Tu me fais peur, tes yeux brillent.
Veux-tu?
Quoi? Cela te ferait tant de plaisir?
Cela... Cela... m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter? Et que je te complète, tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté.
Peut-être que le vrai couple est là, Mathieu Messer. Cyrano Christian.
Oui, alors on sait que le Cyrano historique était homosexuel et que Rostand a probablement joué sur cette donnée-là dans le rapport, effectivement, avec Christian. Il y a plein de répliques qui sont équivoques, même si ce thème ne devient jamais explicite dans la pièce de Rostand. Mais quand il lui propose une expérience, quand il lui propose de se compléter mutuellement, quand il lui propose de faire à nous deux, dit-il, un héros de roman, on peut quasiment y voir une déclaration à la beauté de Christian lui-même. Et Cyrano, c'est ça qui occasionne cette scène, c'est qu'il admire la beauté de Christian.
Mais c'est ça, mais le couple, même sans allusion homosexuelle, le couple est aussi peut-être celui de la rencontre entre l'esprit et la beauté. Et cet aveu qui est que pour faire un héros de roman, il faut être deux. C'est le couple romanesque par excellence.
Voilà, mais quand même un couple monstrueux, enfin, c'est-à-dire que c'est un couple qui se forme pour séduire encore quelqu'un d'autre. Donc là, la proposition de Cyrano, il en mesure bien lui-même le côté fantasque et improbable. Il en vient là vraiment comme un dernier recours, hein, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Alors, ça me permet de revenir à ce que je disais tout à l'heure du langage, le langage qui permet de désamorcer la violence. Il y a une autre grande fonction du langage pour Cyrano, c'est la grande fonction du langage en général, c'est de servir de détour au désir, de détour de séduction au désir. Et là aussi, c'est, si on pense à Freud, le mot d'esprit, ce que maîtrise si bien Cyrano, c'est un des instruments privilégiés du désir et de la séduction. C'est là aussi un instrument de substitution pour ne pas avoir à exprimer un désir directement. De même que le mot d'esprit nous permet dans certains cas de ne pas exprimer une violence directe, le mot d'esprit permet d'exprimer des tendances libidinales ou érotiques ou amoureuses de façon indirecte. Donc, le langage, c'est le détour du désir. Mais chez Cyrano, ce qu'on peut voir, c'est que le langage emprunte un détour tout à fait étonnant, un énorme détour, et qui doit justement passer par cette incarnation double qu'il va proposer à Christian, qui va devenir en quelque sorte son pantin ou son comédien, à qui il va prêter son texte. Donc Cyrano sera effectivement l'esprit, et Christian sera le corps, ce qui sera facile à vivre ni pour l'un, ni pour l'autre. Et donc il crée cette espèce de monstre, si bien qu'on peut dire que Cyrano, qui n'est pas vraiment un héros, là à ce moment-là justement il ne peut pas se montrer. Il est caché,
il est dans l'ombre.
Ce qui n'est pas le propre d'un héros. À ce moment-là, il n'est pas non plus un anti-héros, puisqu'il y a quelque chose de quand même héroïque dans son attitude. On pourrait dire qu'il est un demi-héros qui est complété par un autre demi-héros, puisque Christian, lui aussi, à sa manière, sait être héroïque, au moins sur le plan militaire. Et effectivement, c'est une réplique à la fois spirituelle et très profonde, hein. Ils font à eux deux un héros. Et de ce héros, on peut dire qu'à la fin de la pièce, il mourra deux fois.
Oui.
On pleurera deux fois le héros à la fin de l'acte 4, et puis des années plus tard, à la fin de l'acte 5. À la fin de l'acte 4, c'est Christian qui meurt pendant le siège d'Arras, et à la fin de l'acte 5, c'est Cyrano qui meurt, et à ce moment-là, Roxane dit « j'ai pleuré mon amour deux fois ». Donc c'est un héros qui meurt deux fois.
Toute la pièce laisse penser que l'héroïsme n'est pas de ce monde, que l'héroïsme est le propre des personnages de fiction, de l'invention, de l'imagination, à tel point que lorsque Cyrano propose à Christian de ne former qu'un seul personnage qui serait un héros, c'est un héros de roman, dit-il. Pourquoi cette précision ? Il pourrait simplement dire nous serons un héros de roman.
Oui, ben je pense à un héros de roman. Alors ça renvoie... À mon avis, la grande référence de la préciosité de l'époque, c'est Durfé, Honoré Durfé et son grand roman L'Astrée, qui était la grande référence pour les précieux, la préciosité, les précieuses. Et Roxane est une précieuse. Et quand elle parle pour la première fois de Christian, elle dit qu'il est un héros qui semble tout droit sorti de ce roman-là. Donc c'est ça la référence qui est à l'arrière-plan. C'est voilà, le héros précieux, le héros qui séducteur, le héros des romans d'amour. Et c'est à ça que Cyrano fait référence lorsqu'il propose cette alliance à Christian. Et c'est justement sur ce plan-là que lui ne peut pas être un héros. Il ne peut pas, à cause de son nez, à cause de son physique, à cause sans doute qu'on peut imaginer, puisque c'est un héros de fiction, mais d'angoisse plus profonde quant à son rapport aux femmes. À la fin de la pièce, il parle curieusement de sa mère, il parle du fait qu'il n'a pas eu de sœur, il dit à Roxane qu'elle est la seule robe qui a passé dans sa vie. Qu'elle a été son amie, pas plus, mais au moins elle a été la seule robe qui a passé dans sa vie. Donc Cyrano a clairement un problème pour être un héros sur le plan de la préciosité, qui est précisément ce qu'attend Roxane. Elle le reconnaîtra chez Cyrano quand même un petit peu à la fin. Mais c'est pour cela, à mon avis, qu'il dit un héros de roman. Et l'autre explication que je pourrais proposer de cette curieuse chose dans une pièce de théâtre, c'est que justement au théâtre, Leur duo se voit, tout se voit au théâtre. Le physique de Cyrano se voit. Donc Cyrano, c'est un héros de théâtre qui ne peut pas être un héros de roman. Parce qu'au théâtre, on voit son nez, on voit son physique, on voit ce qu'il est, on voit le stratagème, on voit les détours, on voit tout au théâtre. Autant de choses que dans un roman, on ne verrait pas forcément.
Le corps, pourtant, n'est pas toujours le lieu d'une gêne ni d'une honte, comme c'est le cas avec le nez de Cyrano au sein du roman. C'est aussi le lieu d'une grande gourmandise qui va parfois jusqu'à la jouissance. Et je pense au personnage du pâtissier, le rôtisseur pâtissier Ragno, qui, par malheur pour lui, vit avec une femme qui décide d'emballer ses brioches et ses mignardises dans des feuilles, et ces feuilles, elle les arrache à un livre de poésie. Il y retrouve des sonnets, des proverbes et tout un amour de la langue qu'il cultive à égalité avec son amour pour la pâtisserie. Écoutez cette scène, c'est à nouveau Jean Piat dans le rôle de Cyrano et René Camoin dans le rôle de Ragno.
Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'aube. Étouffe en toi le dieu qui chante, Ragno. L'heure du luth viendra. C'est l'heure du fourneau. Vous, veuillez m'allonger cette sauce. Elle est courte.
De combien?
De 3 pieds.
Hein? La tarte, la tourte.
Ma muse, éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. Vous avez mal placé la fente de ces miches. Au milieu, la césure, entre les hémistiches. À ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit. Et toi, sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet, la dinde superbe, alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe alternait les grands vers avec les plus petits, et fait tourner au feu des strophes de rôti.
Maître, en pensant à vous dans le four, j'ai fait cuire ceci, qui vous plaira, je l'espère.
Une lyre
en pâte de brioche.
Avec des fruits confits.
Et les cordes vrillées en sucre, je les fis. Oh,
va boire à ma santé. Chut, ma femme, circule et cache cet argent. C'est beau.
C'est ridicule. Les sacs.
Bon, merci. Ciel, mes livres vénérés. Les vers de mes amis, déchirés, démembrés, pour en faire des sacs à mettre des croquantes. Ah, vous renouvelez Orphée et les Bacchantes.
Et n'ai-je pas le droit d'utiliser, vraiment, ce que laissent ici pour unique paiement vos méchants écrivains de lignes inégales?
Fourmi, n'insulte pas ces divines cigales.
Avant de fréquenter ces gens-là, mon ami, vous ne m'appeliez pas Bacchante ni Fourmi?
Avec des vers, faire cela!
Pas autre chose!
Que faites-vous alors, madame, avec la prose?
C'est la question qui se pose. Si avec des vers on emballe de la pâtisserie, la règle de la prose, quelle utilisation faire de la langue? On est ici vraiment à la rencontre du spirituel et du charnel, hein, du verbe le plus beau, le plus sublime, avec le corps le plus matériel, celui que l'on engloutit, que l'on déguste.
Oui, et c'est ce qui fait que ce texte est très théâtral. C'est-à-dire qu'on est, ce serait aussi un peu le cas chez Shakespeare, mais on est constamment ramené au corps des personnages et à ce qu'ils mangent et à toutes les dimensions de la vie du corps. Et c'est ce qui passe ici dans ce magnifique personnage de Ragno, le pâtissier poète, chez qui se passe, dans la boutique duquel se passe tout l'acte 2. Alors c'est un personnage très très important, c'est une dimension de la pièce qui est peut-être des fois un petit peu occultée ou sous-estimée, et pourtant c'est un thème très très important, effectivement, de revenir toujours du langage, de l'esprit à la matière. Et on sait que le Cyrano historique était un philosophe, un physicien matérialiste, un disciple de Gassendi, Et donc il insiste beaucoup sur le moral, il a ses élégances, c'est moralement qu'il a ses élégances, il insiste beaucoup sur l'esprit, à la fin il compare sa mort à la mort de Socrate, mais aussi il se compare à Galilée, il se compare à tous les scientifiques, les physiciens, etc. Et donc c'est quand même un personnage matérialiste. Alors ça c'est une dimension passionnante du personnage, c'est ce va-et-vient continuel entre l'esprit et la matière, entre le langage et la nourriture. Alors qu'on rencontre dans l'acte 2, dans l'acte 4, pendant le siège d'Arras, Ragno arrivera avec un chariot rempli de victuailles pour les soldats affamés. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans la pièce et effectivement le langage est constamment comparé à des victuailles, à des pâtisseries, etc. Et chez Ragno, on paye ses gâteaux en poèmes et on pourrait payer des poèmes en gâteaux comme si les mots étaient effectivement des friandises. Alors ça, c'est une leçon profonde de cette pièce. C'est un jeu de transactions continuelles, c'est-à-dire que tout peut s'échanger avec tout. C'est-à-dire le matériel s'échange avec le spirituel. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que Cyrano, c'est un personnage hétéroclite, un personnage composé, presque comme une recette de cuisine. C'est-à-dire qu'il est bretteur, il est musicien, il est philosophe. Il y a tous ces ingrédients qui viennent en lui, il est corps, il est esprit. Et il y a un subtil jeu d'échange à tout instant entre la matière et l'esprit. Et le point de rencontre de ces échanges, c'est le langage. Parce que le langage, ça reste quelque chose de sonore, de matériel, de physique. Et donc, qui peut se payer en gâteau.
On a commencé avec le panache. On va, fidèle à Cyrano, quitter l'esprit pour rejoindre le corps. Et plus précisément, non pas le nez, mais la gueule.
Chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis.
Un grand merci à vous, Mathieu Messer, d'être venu nous parler de Cyrano de Bergerac. Aujourd'hui, vous aviez un dernier mot à dire, je crois.
Oui, je me suis dit un petit alexandrin pour terminer, ce serait bien après Cyrano. Voilà, je voulais juste dire merci, très chère Adèle, de m'avoir invité.
Mais merci à vous, Mathieu Messer. Alors, j'en rougis et j'ai pas de gourmandise à vous proposer en échange de ces belles paroles, mais j'y réfléchirai. Merci à vous, en tout cas, d'être venu à ce micro. Il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie qui fait suite à Cyrano et à Johnny. Quel héritage, Géraldine, courage.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Bon, vous restez dans le sujet, vous nous parlez des acteurs aujourd'hui.
Oui, grâce à deux livres consacrés respectivement à une actrice, Delphine Seyrig, et à un acteur, Tony Servillo. Et quand on y pense, rien de plus omniprésent d'ailleurs que les acteurs en une des magazines, sur les plateaux de télé, invités à faire de la promotion, à s'engager ou à simplement poser, célébrer, détester, on en fait l'emblème d'une société du spectacle fondée sur les apparences où le vrai n'est qu'un moment du faux et dépassant largement le cadre du cinéma ou du théâtre. De quoi donc se demander qui sont les acteurs ? Une question elle aussi omniprésente pour les penseurs, Aristote et sa poétique des caractères, Diderot et le paradoxe du comédien, Constantin, Stanislavski et le jouer juste ou vrai. Mais la question peut sembler au fond elle-même douteuse, jouer est-il vraiment une question d'être ?
C'est un métier que je fais, je le sers le mieux possible, puis c'est tout quoi. Alors si c'est ça que vous appelez la pension, ben alors c'est de la pension, mais je le sers comme je l'ai toujours servi, quoi. J'essaye de le bien faire.
À propos de son métier d'acteur, Jean Gabin le voyait à la fois comme une simple tâche à accomplir, bien ou mal, mais aussi plus que ça.
Tu sais, si j'avais mis en scène, d'abord, il aurait fallu une bonne histoire, Et je l'aurais fait pour les acteurs, parce que moi, j'adore les acteurs. Moi, j'adore les acteurs. C'est chouette, les acteurs. C'est bête, les acteurs. C'est eux qui traduisent tout, quand même. Il n'y a pas d'erreur qu'on raconte ce qu'on voudra, mais c'est eux qui traduisent.
Simple métier ou grande œuvre de traduction, l'ambivalence de l'acteur est là. Il est un passeur dont on peut oublier qu'il joue. On peut oublier en effet qu'il joue, mais on ne saurait pour autant dire qui il est, lui, au fond. Alors, quelle sorte de trace peut-il laisser? Est-ce qu'il laisse quelque chose de son jeu, d'une émotion, d'un souvenir qu'il nous a fait? Est-il l'incarnation d'un caractère, d'un style par-delà ses interprétations et ses personnages? Est-il la trace d'un simple visage? Qui sont donc les acteurs? Comment redéfinissent-ils quelque chose de l'identité et de ce qu'est une personne?
Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani.
Comme je l'ai mentionné au début de ce journal, ce sont deux livres qui m'ont donné l'occasion de poser cette question de l'être des acteurs, question classique de l'Antiquité à aujourd'hui en philosophie. Et le premier de ces livres est un petit ouvrage d'Hélène Frappa sur le comédien italien Tony Servillo, que vous avez peut-être vu dans La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Il faut regarder ce film,
et
une fois que vous acquiesciez.
Oui, oui.
Et elle y propose, donc Hélène Frappa, dans son livre, cette distinction vraiment intéressante, pas encore lue, entre l'acteur qui joue un rôle dans un film et la star ou le monstre qui lui incarne, par-delà la variation de ses personnages, une fonction impersonnelle. Alors par exemple, Tony Servillo incarne par-delà ses rôles le pouvoir. Bette Davis, par exemple, elle incarne la garce. Marilyn Monroe, c'est l'enfance. Cary Grant, c'est la fuite. On voit bien ainsi que le monstre n'est pas qu'une somme de rôles ou qu'une personne artificielle, mais une nouvelle forme d'être, c'est un personnage impersonnel, une identité abstraite et stylisée.
Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. Par exemple, ce matin, avant de venir ici, je me suis maquillée, je me suis mis de la poudre sur le nez. Je me suis fait les yeux. Et en traversant Paris, je me suis aperçue que toutes les femmes faisaient la même chose, pour le plaisir ou par politesse. Vous dites que je suis exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour.
Et le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est une biographie de l'actrice Delphine Seyrig par Mireille Branger. Alors si on reprend la distinction entre acteur et monstre que fait Hélène Frappa, on ne peut pas dire que Delphine Seyrig est seulement une actrice qui joue, juste ou vrai, ni un monstre qui incarne une fonction impersonnelle. Au contraire, comédienne, réalisatrice, engagée, elle nous pousse à trouver un autre nom où ce ne sont pas les rôles qui font plier la personne, mais la personne qui fait plier ses propres rôles. Et peut-être la réponse alors se trouve chez Hobbes dans le Léviathan, et oui, quand il disait « personnifier cet être l'acteur, c'est se représenter soi-même ».
C'est vrai qu'on trouve d'extraordinaires réflexions sur le rôle de l'acteur dans le Léviathan de Hobbes. Merci de nous le rappeler, Géraldine.
De manière alors, inattendue.
Oui, les deux lectures que vous nous conseillez de faire.
Donc c'est Tony Servillo, le nouveau monstre d'Hélène Frappa, aux éditions Séguier. Je le recommande vraiment. Et puis, la très belle biographie Delphine Seyrig, une vie, au Nouveau Monde édition par Mireille Branger.
C'est noté, ces deux références ainsi que votre chronique sont à retrouver en ligne sur le site du Journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markevitch, David Pargamin, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Jacques Hubert qui était la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur l'héroïsme, tous des héros. Eh bien, on posera la question demain à Frédéric Moreau, le héros ou anti-héros, en tout cas le personnage principal de l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, et ce sera Pierre-Marc de Biasi qui viendra vous en parler. Ça, ce sera demain, à 10h donc, mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission sur Cyrano de Bergerac, en compagnie de Mathieu Omesser, c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter toutes les émissions en ligne, mais également les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure et dans le lieu de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.